Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du mardi 9 avril 2024. Voici d'abord les principaux titres. Des millions de personnes ont admiré une rare éclipse totale de traverser le nord du continent américain, plongeant temporairement le jour dans l'obscurité.
Le soleil est parti complètement. Même les lunettes, on a le soleil. Wow!
La France dit ne pas avoir à se prononcer sur l'avenir du franc CFA en Afrique de l'Ouest. Commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda, une semaine d'hommage et de réflexion à Washington.
Nous nous réunissons aujourd'hui pour la 30e fois, non seulement pour commémorer, mais aussi pour ne jamais oublier comment nous en sommes arrivés là.
En Afrique du Sud, la décision judiciaire sur la participation de Jacob Zuma aux élections attendue aujourd'hui. Les États-Unis réaffirmaient leur opposition à toute opération israélienne majeure à Rafah. Les dirigeants haïtiens trouvent un accord politique pour former un conseil de transition. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Une belle éclipse totale a traversé le nord du continent américain hier, du Mexique au Canada en passant par les États-Unis. Un événement spectaculaire admiré par des millions de personnes, n'est-ce pas Nathalie Barche?
La NASA a retransmis en direct la progression de l'éclipse qui a commencé à 18h07 GMT sur la côte pacifique du Mexique. Sa trajectoire a traversé 15 États américains, du Texas au Maine, pour terminer sa course dans l'est du Canada. L'ombre de la Lune était visible environ 1h30 au-dessus des trois pays. En dehors de la bande de 185 km de large d'éclipse totale, il était possible de voir une éclipse partielle, comme à Mexico ou à New York, où la foule a admiré l'événement céleste. À Montréal, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans un parc. De nombreux hôtels affichaient complet aux États-Unis, où des festivals étaient organisés hier pour l'occasion. Certaines compagnies aériennes ont effectué des vols le long du trajet d'obscurité. Dans la Station spatiale internationale, les astronautes ont observé la progression de l'ombre de la Lune sur la Terre. La NASA a lancé 3 fusées-sondes pendant et après l'éclipse, à partir de la Virginie, pour mesurer les changements générés par l'obscurité dans la partie supérieure de l'atmosphère terrestre. Cela a aussi permis aux scientifiques d'observer la couronne du Soleil, sachant que notre petite étoile en pleine période d'activité connaît actuellement de nombreuses éruptions solaires. La prochaine éclipse totale dans la région aura lieu en 2044, longtemps après une autre qui sera visible dans 2 ans du côté de l'Espagne.
Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a déclaré lundi que la France n'avait pas à se prononcer sur l'avenir du franc CFA en Afrique de l'Ouest. Le débat sur la monnaie commune à une quinzaine de pays africains a été ravivé après l'élection de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal. Yacouba Ouédraogo.
Si les pays africains se mettent d'accord pour changer le nom, organiser différemment leur organisation monétaire, c'est de la souveraineté des États. Nous voulons bien accompagner ce mouvement. S'il s'agit uniquement du symbole du nom, il peut être changé. S'il s'agit d'une organisation différente de l'organisation monétaire, elle peut également être changée, a dit le chef de la diplomatie française. Ce n'est pas à la France d'avoir un avis là-dessus. Nous avons fait notre part du chemin en sortant de la gouvernance du CFA. Maintenant, aux États africains de décider, a poursuivi Stéphane Séjourné, interrogé par 2 médias français. Le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a prôné pendant sa campagne une rupture avec la devise actuelle utilisée dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe 8 pays et dans 6 pays d'Afrique centrale. Les critiques envers le franc CFA, dont les billets sont toujours imprimés à Chamalière, en France, ne sont pas récentes. Sa parité, arrimée à l'euro, est fréquemment visée par ses détracteurs.
L'armée du Burkina Faso a reçu lundi une douzaine de drones de combat livrés par la Turquie afin de lutter contre les groupes djihadistes. Selon la présidence burkinabé, l'agrandissement de la flotte permet donc d'intervenir en temps opportun et d'effectuer une surveillance permanente. La décision concernant la participation de l'ex-président Jacob Zuma aux élections générales prévues fin mai en Afrique du Sud sera rendue aujourd'hui mardi par la justice suite à son appel contre son exclusion du scrutin. Rosine Munezer.
Jacob Zuma, 81 ans, était présent hier lundi au tribunal de Johannesburg qui a examiné son recours pour faire annuler une récente décision de la commission électorale l'excluant des listes de candidats. Fin mars, la commission électorale a mis un frein au VET de M. Zuma en invalidant sa candidature, rappelant notamment qu'une personne condamnée à une peine de prison supérieure à 12 mois n'est pas éligible. Encore poursuivi pour corruption, M. Zuma a été condamné en 2021 à 15 mois de prison pour outrage. Il avait été remis en liberté conditionnelle au bout de 3 mois pour raison de santé. Le président Cyril Ramaphosa a ensuite prononcé une remise de peine. « Nous avons affaire à quelqu'un qui a été condamné », a indiqué l'avocat représentant la commission électorale, soulignant que la remise de peine n'efface pas la condamnation initiale. Zuma était candidat à un siège de député sur la liste du parti radical récemment créé Umkhonto we Sizwe, MK, lance de la nation en Zoulou. L'ancien pilier du Congrès national africain ANC, parti au pouvoir depuis 30 ans, avait créé la surprise et contrarié le parti au sein duquel il a lutté contre l'apartheid en annonçant en décembre soutenir le MK. Les Sud-Africains votent le 29 mai pour renouveler leur parlement qui choisira le prochain président. Les listes définitives des candidats doivent être publiées mercredi.
Les recherches se poursuivaient lundi au large du Mozambique pour retrouver des passagers après la mort d'au moins 98 personnes dans le naufrage d'un bateau de pêche surchargé. De nombreuses familles tentaient de fuir la terre ferme en raison de fausses informations sur une épidémie de choléra en cours. Les autorités ont déclaré que le bateau a coulé parce qu'il était surchargé et inadapté au transport de passagers. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a présenté sur X ses plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple du Mozambique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont réaffirmé avec force lundi leur opposition à toute opération israélienne majeure à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, au moment où le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dit avoir fixé une date. Michel Claire-Joseph.
Nous avons clairement fait savoir à Israël que nous pensions qu'une invasion militaire massive de Rafah aurait un effet extrêmement néfaste sur ses civils et qu'elle nuirait à la sécurité d'Israël, a déclaré le porte-parole du département d'État. Israël estime que la victoire sur le Hamas exige l'entrée dans Rafah et l'élimination des bataillons terroristes qui s'y trouvent. Cela se fera, il y a une date, a fait savoir le Premier ministre israélien dans une déclaration vidéo. Les États-Unis et nombre de capitales craignent pour la sécurité des plus de 1,5 million de Gazaouis ayant trouvé refuge dans Rafah. Nous avons clairement fait savoir à Israël que nous pensions qu'il existe un meilleur moyen d'atteindre un objectif légitime, à savoir dégrader, démanteler et vaincre les bataillons du Hamas se trouvant encore à Rafah, a ajouté le département d'État. Le Hamas examine une proposition en trois étapes remise par les pays médiateurs, dont la première prévoit un cessez-le-feu de 6 semaines, a indiqué une source au sein du Hamas. Le président français Emmanuel Macron, le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le roi de Jordanie Abdallah II ont appelé lundi soir à un cessez-le-feu immédiat et permanent, à une libération de tous les otages à Gaza et mise en garde Israël contre les conséquences dangereuses d'une offensive à Rafah.
Le chef de la diplomatie britannique David Cameron a une visite officielle de 2 jours à Washington pour parler de l'Ukraine et discuter de la situation à Gaza. Il va s'entretenir avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, des parlementaires, et va exhorter les États-Unis à débloquer leur aide pour l'Ukraine, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères britannique. Un succès de l'Ukraine et l'échec de Poutine sont vitaux pour la sécurité des Américains et des Européens, affirme David Cameron dans le communiqué, alors que la Russie accroît sa pression dans l'est du pays. Une victoire de la Russie serait clairement attendue à Pékin, à Téhéran et en Corée du Nord, met-il en garde. Les responsables politiques haïtiens ont trouvé un accord pour former un conseil de transition présidentielle de 22 mois qui sera chargé de restaurer l'ordre dans le pays. Ce conseil de 9 membres intègre des représentants des principaux partis du pays, du secteur privé et de la société civile. Sa première tâche consiste à choisir un premier ministre qui, en collaboration avec le conseil, désignera un gouvernement pour conduire le pays vers des élections démocratiques, libres et crédibles selon l'accord. Aucun des membres du conseil ou du gouvernement ne pourra se présenter à ces élections. Son mandat prendra fin le 7 février 2026. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nous retrouvons à présent Claire Morin-Gibourg pour vous présenter sa Minute Éco.
En 2023, le Rwanda est passé devant la RDC concernant les exportations de coltan avec 1918 tonnes. La RDC et le Rwanda sont les deux principaux exportateurs mondiaux de coltan, ce minerai essentiel dans l'industrie électronique et présent dans les ordinateurs et les smartphones. Selon les chiffres d'Ecofin, la RDC avait atteint son pic en 2020, où elle avait réussi à exporter 2466 tonnes cette année-là. Selon la Banque mondiale, la croissance africaine devrait rebondir en 2024 avec 3,4% pour l'Afrique subsaharienne. Toutefois, elle précise que la reprise reste fragile et son rythme trop lent pour avoir un effet significatif sur la réduction de la pauvreté. L'inflation a diminué dans la plupart des économies africaines par rapport à l'an dernier, passant en moyenne de 7,1% à 5,1%, mais reste à des niveaux plus élevés qu'avant le Covid. Aux États-Unis, le dernier album de la star de la musique Beyoncé, Cowboy Carter, s'est hissé en tête du Billboard 200, classement de vente qui fait référence, et au sommet du classement pour le genre country, une première pour une artiste noire. Avec l'équivalent de 407 000 exemplaires vendus la semaine du 4 avril, Cowboy Carter réalise la meilleure performance de 2024.
Nous passons directement à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Match retour ce mardi du dernier tour qualificatif pour les JO de Paris. Football féminin, zone Afrique.
Oui, après s'être imposé 2-1 en Dola en Zambie, le Maroc reçoit la Zambie au complexe sportif au prince héritier Moulay El Hassan à Rabat. Amin Birouk.
Maintenant, il va falloir se méfier d'un sursaut rageur de la Zambie demain à Rabat. On rappelle que le but à l'extérieur ne compte pas double dans ces confrontations et toute victoire zambienne, même sur le score d'un but à zéro, obligerait les deux équipes à disputer des prolongations, puis peut-être la fatidique séance des tirs au but. Une victoire marocaine ou un match où les Marocains n'encaisseraient pas de but signifierait d'ailleurs une qualification historique pour les JO de Paris 2024.
De son côté, le Nigeria défie l'équipe championne d'Afrique en titre, l'Afrique du Sud, battue 1-0 au match aller à Abuja. Les vainqueurs de cette double confrontation vont représenter l'Afrique aux prochains Jeux Olympiques Paris 2024.
Le nouveau sélectionneur du Cameroun a signé son contrat en pleine querelle avec la Fédération Yacouba.
La cérémonie de signature du contrat de Marc Brice a eu lieu hier à Yaoundé en fin d'après-midi, présidée par le ministre, mais en l'absence remarquée de Samuel Etofis, précise Cameroun Radio Télévision CRTV. Le président de la FECAFOOT, Samuel Etofis, juge illégal le choix du Belge imposé par l'exécutif. Selon lui, le ministre Narcisse Mouillé-Combi a nommé Marc Brice, 61 ans, le 2 avril dernier, en remplacement de Rigobert Song, dont le contrat n'a pas été renouvelé par la FECAFOOT après la prestation décevante de la sélection lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Dès le lendemain de la nomination de Brice, Eto a dénoncé une décision illégale selon lui, tandis que sa fédération rappelait que le choix du sélectionneur est une prérogative qui revient aux instances nationales du football et non au gouvernement.
Et puis Yacouba, Ligue des champions ce soir en Europe avec les matchs aller des quarts de finale.
Au menu, un choc galactique aux aires de finale avant l'heure. Le roi d'Europe face au tenant du titre. Du haut de ses 14 couronnes continentales, le Real Madrid défie pour la 4e fois en 5 saisons Manchester City, nouvel orgue européen sacré l'an passé. Le Real Madrid aura besoin du courage et de la personnalité qui lui a manqué l'an dernier lors de la confrontation perdue en demi-finale contre le même adversaire. C'est ce qu'a affirmé l'entraîneur des Espagnols, Carlo Ancelotti. Après nul à l'aller, un but partout, les hommes de Carlo
avait pris l'eau au retour 4-0 contre le futur vainqueur de la compétition. De son côté, Arsenal veut stopper son bourreau historique, le Bayern Munich. La dynamique penche en faveur des Gunners, leader de Premier League à l'attaque explosive et à la défense de fer. À l'inverse, le recordmaster a bu la tasse contre Dortmund puis Heidenheim avant son déplacement à l'Emirates. 2 défaites 2-0 et 3-2 coup sur coup qui hantaient quasiment ses chances de titre en Bundesliga.
La page des sports signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Des dizaines de millions de personnes du Mexique au Canada en passant par les États-Unis ont eu le privilège d'assister à un rare événement céleste. Une éclipse solaire totale qui ne se reproduira pas dans cette partie du monde avant 2044. VOA Afrique a joint Thierry Matsiko qui a observé l'éclipse depuis Montréal au Canada. Il partage ses sensations pendant ce spectacle qui n'a duré que 2 minutes entre 3h25 et 3h27 minutes.
Bon, l'éclipse solaire, c'était vraiment impressionnant. J'attendais ça, vraiment, j'avais hâte de voir ça et voilà, j'ai vu ça avec les lunettes appropriées à ça. C'était vraiment un bon spectacle. Donc, un soleil, tu vois, un soleil qui brille, mais à la fin, c'est un soleil qui s'éteint progressivement et qui est couvert de la lune. Et finalement, c'est couvert totalement. C'est la nuit qui tombe en une minute de temps. Tu vois, tu quittes le jour pour aller vraiment dans la nuit totale. C'était vraiment impressionnant et émouvant pour certains aussi.
Vous étiez seul à ce moment-là ou...
J'étais dans un parc parce que ça m'intéressait beaucoup de voir le spectacle en public avec des personnes à côté de moi. Justement pour voir la réaction de différentes personnes. C'était vraiment émouvant pour certaines personnes, un peu d'un certain âge, je dois dire, parce qu'il y avait des dames âgées à côté de moi et des messieurs. C'était super émouvant. Mais pour la jeunesse et de moyen âge, c'était impressionnant. C'était un spectacle super impressionnant.
C'est la première fois?
Bon, j'en avais vu en Afrique une fois, mais j'étais vraiment petit. Hein. Je me rappelle même plus. Et en Afrique, comme on n'avait même pas l'occasion de s'acheter des lunettes appropriées pour ça, donc c'était un phénomène qui faisait peur parce qu'on disait que c'est la fin du monde, c'est la fin de la Terre, tout ça. Si, des fois, on disait que ça portait malheur. Mais c'est vraiment la première fois que je viens d'assister à l'éclipse en tant que spectacle. Et il y avait vraiment beaucoup de déplacements ici à Montréal, des déplacements des curieux spectateurs, tout ça. Vraiment, c'était super.
Et dans votre pays d'origine, quelle est autre signification leur donnait-on là-bas?
Bon, dans mon pays d'origine, moi je suis d'origine burundaise. Et comme on est un peu traumatisé par certains événements, que ce soit des événements politiques, que ce soit des événements malheureux dans nos familles, donc avec l'éclipse, on parlait d'éventuels coups d'État qui s'annoncent, on parlait d'éventuels tremblements de terre qui va bientôt arriver, parce que c'était symbole vraiment d'un mauvais signe. Donc, éclipse au niveau de mon pays, le Burundi, c'était synonyme de fin de vie de certaines personnes ou la fin du monde, quoi.
C'était qui a observé l'éclipse solaire depuis Montréal au Canada. À l'occasion du 30e anniversaire du génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda, l'ambassade de la République du Rwanda à Washington a initié une commémoration du sommage solennel. L'événement a été marqué par un moment poignant pour le souvenir collectif et l'introspection. Lionel Runanira Gahima nous en dit plus.
La journée a commencé par la cérémonie de lancement réunissant le père ambassade, les dirigeants de Ibuka et les représentants de la communauté des Rwandais dans la ville de Washington, alors que le drapeau flottait en berne en souvenir solennel. Pour les membres de la diaspora, l'histoire du Rwanda est celle de la résilience, de la reconstruction et de l'unité. Et cet événement revêt une grande importance car il honore la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au cours du génocide. Cathy Ruivanga est présidente de la communauté rwandaise dans le DMV.
It's been a journey of resilience.
C'est un voyage de résilience. C'est un voyage qui, lorsque vous regardez les Rwandais, ce qu'ils ont dû abandonner, vous savez, pour hausser les épaules et continuer à aller de l'avant après les expériences qu'ils ont dû traverser lors du génocide de 1994 contre les Tutsis. C'est un voyage que moi-même, en tant qu'être humain, je ne peux pas comprendre. Mais quand on regarde, on voit cette humanité. Quand il y a une volonté, il y a un chemin.
Alain Chouty est chargé de la jeunesse dans la communauté rwandaise dans le DMV.
Nous nous réunissons aujourd'hui pour la 30e fois, non seulement pour commémorer, mais aussi pour ne jamais oublier comment nous en sommes arrivés là et pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Pour ma part, en tant que survivant du génocide, je n'avais que 6 mois lorsque cela s'est produit. Il est donc très important de toujours s'en souvenir. Il faut donc s'unir et renouveler nos vœux pour s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais.
Tout au long de l'événement, les participants ont pris part à diverses activités commémoratives comme l'allumage des bougies et suivre le discours du président Paul Kagame sous le regard attentif des invités. Shiba Rugege Hakiza est une entrepreneure et elle est aussi la trésorière de la communauté rwandaise aux États-Unis.
Pour ma famille, c'est toujours un jour solennel. Nous avons perdu un nombre indescriptible de Rwandais, les amis du Rwanda au début du génocide, le 7 avril 1994. Mais ce que cela signifie aussi pour nous, c'est que nous sommes des personnes résilientes, quelle que soit la difficulté de la situation. Nous étions des réfugiés en Ouganda lorsque je suis née. Nous avons continué à persévérer.
Yann Manzi pense qu'il est important que la prochaine génération qui va poursuivre ce travail comprenne que cette histoire, aussi douloureuse et sombre soit-elle, est la sienne.
Il s'agit de s'approprier cette histoire, de comprendre qu'elle fait partie de ce que nous sommes, mais que ce n'est pas tout ce que nous sommes. Nous sommes capables de dire au monde que nous avons évolué et que nous avons pu construire quelque chose. C'est précieux. La vérité doit rester la vérité. Quoi qu'il en soit, nous devons garder à l'esprit que le génocide n'est pas terminé tant que l'on n'a pas atteint le stade du déni et du révisionnisme. La plus grande bataille à laquelle la jeune génération doit faire face est donc de maintenir l'authenticité et la vérité de notre histoire.
Au Cameroun, la mairie de Yaoundé vient de donner le coup d'envoi de grands travaux de réhabilitation de certains tronçons routiers et carrefours névralgiques de la capitale. Ces travaux font suite au ras-le-bol de la population face à la dégradation avancée de la voirie municipale de Yaoundé. Le reportage de notre correspondant Emmanuel Jultap.
Au quartier Emombo, dans le 4e arrondissement, les habitants ont exprimé ces dernières années leur mécontentement au sujet de la dégradation avancée de certains tronçons. La mairie de Yaoundé y a finalement entrepris des travaux de réhabilitation. Jean Akono est élève et réside au quartier Mombo.
Ça va nous aider beaucoup. La route était gâtée. On n'arrivait même pas à bien marcher. Avec le soleil aussi, il y avait trop de poussière. Et ça nous étouffait. Là, maintenant, avec les travaux, ça va s'améliorer. On espère bien.
Depuis le début de l'année, en marge de la réhabilitation de certains axes routiers, la mairie de Yaoundé entend également reconstruire certaines gares routières et carrefours où l'on enregistre les encombrements à la circulation. Adalbert Bessala est un jeune cadre de banque.
Nous espérons que cela ne va pas rester simplement dans le cadre de certains quartiers qui seraient peut-être privilégiés ou certaines artères qui seraient privilégiées que d'autres. Parce que finalement, toutes les rues de Yaoundé se ressemblent. Que vous soyez à Yaoundé 4e, que vous soyez à Yaoundé 5e ou à Yaoundé 6e. Donc, le mal est le même. Donc, nous espérons véritablement qu'ils vont faire quelque chose de durable. Parce qu'au Cameroun, là, il faut le dire, ce genre d'occasion, c'est également une porte d'entrée pour certains de pouvoir s'enrichir. Ça veut dire quoi? Ils ne vont pas faire le travail qu'il faut pour que demain, après-demain, ou de 2 ou 3 ans, on les appelle encore pour qu'on leur donne de l'argent.
Ailleurs, certains résidents de Yaoundé ne dissimulent pas leur colère au sujet de la dégradation avancée de la voirie urbaine.
Nous sommes au quartier Tropicana. Depuis que le président ne passe plus cela, la route a été abandonnée.
Anissé Amara, est commerçant au lieu dit Carrefour Tropicana, dans le 4e arrondissement. À cet endroit, les voitures circulent difficilement en raison de nids de poules.
Donc quand ils viennent, ils mettent le gravier, dans le, on appelle ça comment, le béton. Ils mettent le béton sur le goudron. Donc tout est à refaire. Et vous-même, vous regardez, il y a les inondations, l'eau traverse la route à tout moment, les rigoles sont bouchées.
Adamou Bakari, un conducteur de moto-taxi, raconte quant à lui sa mésaventure liée au mauvais état des routes à Yaoundé.
Il a appelé vers 18h jusqu'à 21h. Même quand je suis arrivé à la poste, c'est encore là, même là. J'avais la moto. Je suis encore brusquement même dans l'eau. Ça inondait la moto.
Certains travaux de réhabilitation des tronçons routiers vont être livrés en juin prochain, selon le maire de la ville de Yaoundé qui a récemment entrepris la visite de ces chantiers. Luc Messi Atangna, maire de Yaoundé.
Allez donc descendre sur le terrain, voir si ces chantiers, après le lancement, ont eu une continuation au niveau des travaux et voir aussi le niveau d'avancement de ces travaux ainsi que leur qualité.
Le 27 octobre 2023, face aux plaintes des populations, Joseph Dion Goûté, Premier ministre, avait ordonné, à l'issue d'une réunion interministérielle, des travaux d'urgence dans la capitale. Yaoundé, Emmanuel Junta. VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a promis vendredi dernier de remuer ciel et terre pour reconstruire le pont qui s'est effondré fin mars à Baltimore, comme un château de cartes faisant 6 morts. Profitons-en pour braquer les projecteurs sur les entrepreneurs africains qui vivent et travaillent dans cette grande ville de l'État du Maryland, face à des défis récents tels que l'effondrement du pont Francis Scott Key. Les récits de ces hommes et de ces femmes d'affaires mettent en lumière leur esprit d'innovation et de communauté. Sims Lomami a rencontré quelques-uns d'entre eux. Son reportage est relaté par Gabi Dorsil.
Situé dans la région centrale de l'État du Maryland aux États-Unis, Baltimore est une ville qui attire de nombreux entrepreneurs africains, contribuant ainsi à enrichir son paysage économique et culturel. Bertil Akobaseka, une mère au foyer burundaise, met en avant les défis et les opportunités auxquelles sont confrontés les immigrants à Baltimore.
Ce qui prend pour vivre à Baltimore, c'est le courage et puis de rester en dehors de problèmes avec surtout la police. Il y a beaucoup d'opportunités, surtout pour les immigrants, pour les mamans et les enfants, ce qu'on appelle aussi les single mothers. Il y a beaucoup d'opportunités à Baltimore.
Au cœur de Baltimore, le restaurant Rooty Rotisserie propose un mélange de saveurs d'Afrique de l'Ouest et de cuisine française. Les copropriétaires Amanda Burton, une Afro-américaine d'origine libérienne, et son mari Joseph Burton ont transformé leur expertise en matière d'hospitalité et leur riche héritage en une célébration de la restauration et de la culture.
Mon mari et moi avons étudié l'hôtellerie à l'Université du Maryland Eastern Shore. Nous sommes donc tous deux des professionnels de l'hôtellerie. Nous avons tous deux travaillé dans ce secteur à Baltimore pendant plusieurs années, jusqu'à la pandémie où nous avons tous deux été mis à pied. Ma famille est libérienne, je suis donc originaire d'Afrique de l'Ouest. Ici, nous combinons notre expérience avec les techniques françaises de mon mari, ce qui nous permet de créer le menu et la cuisine du restaurant.
Malgré les possibles conséquences de l'effondrement du pont Francis Scott Key de Baltimore, Joseph Burton reste déterminé à soutenir l'approvisionnement local.
Je pense que certains seront touchés, notamment en ce qui concerne la production de différents objets en plastique et d'autres choses qui pourraient avoir une incidence sur l'activité. Mais j'essaie de rester local dans le Maryland pour ce qui est de l'achat de mes produits et de mes protéines. Je ne pense donc pas que le monde m'affecte directement parce que j'essaie de rester local autant que possible.
Au cœur de la scène artistique de Baltimore se trouve Robert William, propriétaire de la galerie Umri Siki New Day. Sa collection va bien au-delà des sculptures complexes et des peintures captivantes habituelles. Pour Robert et tant d'autres entrepreneurs comme lui, c'est une chose spirituelle que de vendre des objets d'art. Il est souvent mal compris, néanmoins il persiste et promeut l'art et la culture d'un continent qu'il n'a même pas visité.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manilakiza à ce micro. Michel Claire-Joseph a assuré la production et la réalisation. Elle le fait avec passion et élégance. Notre ingénieur du son à la console, Nachwan Kale. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com, nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.